François vient de sortir sa première encyclique, La lumière de la foi. Je voulais vous parler de ça. C'est pas si évident. C'est vite lu. Vous pouvez le lire. D'ailleurs, c'est très vite lu. C'est très, très éclairant. C'est pas du tout difficile comme écriture. Vous savez que c'était le pape Benoît qui avait commencé à écrire cette encyclique, la troisième de son pontificat. C'était la première, c'était sur l'amour, Deus Caritas Est, Dieu est amour. La deuxième, Spes Salvi, sur l'espérance. Il manquait bien sûr la troisième vertu théologale. Alors, il a institué l'année de la foi, et au cœur de l'année de la foi, il voulait sortir cette encyclique sur la foi. Il va renoncer au cours de cette année de la foi, et donc il annonce au moment qu'il renonce qu'il ne sortira bien sûr pas l'encyclique qu'il avait commencé à écrire. Et François est allé frapper à sa porte en disant « Écoute, Benoît, ce serait très gentil si tu continuais à écrire l'encyclique, tu me la refiles après, je corrige un petit peu, je rajoute d'autres choses. Ça fait un travail déjà tout fait que je prendrai, que je publierai, c'est ce qui s'est passé. » Donc il le dit au départ, qu'il remercie le pape Benoît d'avoir travaillé un petit peu la chose, d'avoir remis un petit peu sa griffe personnelle à l'intérieur pour ce grand message de la foi. Et je dirais un mot là-dessus à la fin. Je crois que c'est vraiment ce grand combat qui nous est demandé, la lumière de la foi qui vient éclairer l'humanité, qui vient délivrer de l'obscurité. Mais pourquoi c'est si important dans le monde d'aujourd'hui? C'est un petit peu ça que j'aimerais voir avec vous maintenant. Par rapport à ce qu'on a vécu dans les deux derniers siècles en particulier, alors c'est un peu court peut-être de faire un rapport comme ça, mais de voir les grandes lignes de force qui se sont dégagées et comment aujourd'hui la lumière de la foi est la seule réponse à ce drame de l'humanité. Comment, même chez des gens athées ou chez des gens qui sont en marge, on se rend compte qu'on est arrivé à une impasse aujourd'hui. Que ce monde des lumières a éteint la lumière véritablement, et que la lumière n'a fait que répandre des ténèbres sur notre terre. On en arrive véritablement à une impasse, et de proclamer la lumière de la foi dans ce monde, de redonner à la raison une lumière qui l'éclaire, qui la libère, qui la développe, est vraiment le grand défi de cette époque. C'est pour ça que la nouvelle évangélisation est tellement importante. C'était un jour dans une classe, une maîtresse, des petits enfants authentiques, hein. Je crois que j'avais 7 ans, comme ça, 6-7 ans, puis la question vient sur Dieu, puis la maîtresse dit, vous savez, moi je suis athée. Ah, et puis alors, ça veut dire quoi, madame athée? Ben, ça veut dire qu'on ne croit pas en Dieu, que Dieu n'existe pas. Ah, dit les enfants, et puis elle dit, alors qui d'entre vous est athée? Alors tout le monde lève la main, et bien sûr, parce que la maîtresse est athée, tout le monde, sauf une petite fille qui ne lève pas la main, et dit, mais qui croit en Dieu? Puis la petite fille lève la main. Alors la maîtresse dit, alors tout le monde la regarde, vous avez tous les regards sur elle, dit mais pourquoi tu crois en Dieu? Parce que papa et maman ils croient en Dieu, ben moi je crois aussi en Dieu parce que papa et maman ils m'ont donné la foi. Puis la maîtresse éclate de rire en disant, ah et si tes parents étaient des imbéciles, tu serais une imbécile aussi alors? Elle dit, ah non, si mes parents étaient des imbéciles, je serais athée moi. Voilà, donc je pensais à cette phrase de l'évangile où le Christ dit lorsque vous serez conduit devant un tribunal, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire, l'Esprit Saint vous soufflera au moment voulu la réponse qui convient. Donc elle était inspirée de l'Esprit Saint pour recevoir cette réponse particulière. Et c'est vrai qu'il y a ce premier aspect qui est là, on en dira un mot. Et puis un autre aspect, c'est aussi parfois le fait de ne pas vouloir creuser, vous savez. C'est toujours aussi une histoire authentique. Un monsieur qui s'adresse à un prêtre et qui dit, vous savez, mon père, moi je suis un incroyant. Il dit, ah bon, vous êtes un incroyant? Oui, moi alors je crois à rien du tout, vraiment. Il dit, mais vous avez déjà lu un jour la Bible, l'évangile? Enfin, non, les évangiles peut-être, une lettre de Saint Paul? Ah non, rien. Un ouvrage d'un philosophe ou d'un théologien, comme ça, sur ces questions de la religion, de la foi? Ah non, pas du tout. Peut-être la vie d'un saint ou un texte comme ça? Ah non, rien du tout. Ah non, rien du tout. Alors vous savez, il dit, mais vous n'êtes pas un incroyant, vous êtes un ignorant. C'est très différent. Donc, voilà. Donc, il y a des frontières qui sont un peu différentes que celles qu'on imagine dans ces choses-là. Alors, quel était ce grand mouvement, et c'est ce mouvement d'athéisme, pour vous montrer qu'on ne peut pas être athée, finalement. C'est le cardinal Ratzinger, à l'époque, qui avait une très belle réflexion. Il disait, vous savez, l'athéisme et la foi sont deux actes de foi. Celui qui croit que Dieu existe, celui qui croit que Dieu n'existe pas, pose un acte de foi. Les deux sont des croyants. Croire en l'existence de Dieu et croire en la non-existence de Dieu sont des actes de foi. Reste une seule attitude qui paraîtrait rationnellement plausible, si vous voulez, mais on verra que c'est très difficile, ce serait l'agnosticisme. De dire, finalement, je peux rien dire. Ma raison n'arrive pas à prouver que Dieu existe, même si dans la philosophie on arrivait à définir un certain nombre de preuves de Dieu par convenance. Ma raison n'arrive pas à prouver que Dieu n'existe pas, et toutes les preuves que Dieu n'existe pas dans la science ont éclaté.